Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek. On est heureux de vous retrouver pour cette émission consacrée à la culture geek et consacrée aussi, une fois n'est pas coutume, à la musique. Bien sûr, comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Marjorie. Salut Marjorie, comment ça va ?
Salut à tous, ça va très bien.
Alors Marjorie, c'est toi qui as préparé avec brio, j'ai envie de le dire, cette émission, une émission consacrée au cinéma et à la musique, et on fera un petit blind test dans cette émission. Alors évidemment, si on fait un blind test, que tu l'as préparé et que je suis le seul à jouer, ça n'a aucun intérêt, et c'est pour ça qu'on a la chance d'accueillir avec nous Sam. Salut Sam, comment ça va ?
Salut, ça va très bien, merci.
Tu commences à devenir un habitué de l'émission, Sam, on t'a entendu il y a 2-3 semaines nous parler de la Nintendo Switch. On ferait une autre émission consacrée à la musique et aux jeux vidéo, je suis sûr que tu vas aussi cartonner. Mais voilà, tu es aussi musicien à tes heures perdues, tu es aussi geek à tes heures perdues. Et on ne voyait personne d'autre que toi pour participer avec moi au blind test. Tu m'as dit que tu avais un niveau un peu naze, comme j'ai un niveau ultra pourri, j'ai peut-être, je dis bien peut-être mes chances, j'espère que ça va suffire et j'espère que tu ne m'as pas menti. J'espère que tu n'es pas très très balèze au blind test, sinon ça va être compliqué pour moi.
En tout cas, je serai une très bonne arbitre.
Bon, alors ça, tu seras toujours une très très bonne arbitre, ça je n'en doute pas. Marjorie, musique et cinéma, deux de tes passions, enfin plus le cinéma que la musique, quoique la musique c'est aussi ton dada. Qu'est-ce que tu peux nous dire de beau ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de beau sur la musique au cinéma ? C'est pas le truc auquel on pense parfois en premier.
Eh bien non, parce que selon les films, on peut soit entendre la musique, soit ne pas l'entendre. C'est très difficile à expliquer. Je dirais que dans certains films, c'est plutôt un personnage vraiment, la musique. Elle raconte quelque chose, elle raconte ce qui se passe à l'écran. On pourrait très bien comprendre les péripéties d'un film selon ce qu'on entend en fait comme musique. Et voilà.
Finalement, avant le cinéma parlant,
il y avait de la musique.
Et finalement, il n'y avait pas dans des salles, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me coupes, il n'y avait pas un pianiste ou des musiciens qui jouaient pendant que le film était projeté et qui du coup adaptaient son jeu en fonction de la musique. Voilà.
Alors en fait, c'était le grand truc du cinéma muet, parce que si les films n'étaient pas parlants, c'est qu'on ne savait pas mettre le son sur la pellicule vidéo. Donc, ce que faisaient les réalisateurs, c'est qu'ils faisaient composer une musique ou se servaient de musique classique, qu'ils mettaient sur un disque, et le disque était lancé en même temps que le film. Mais dans certains cinémas de haut standing, dirons-nous, il y avait aussi l'orchestre qui jouait en même temps, comme si vous alliez à l'opéra ou au théâtre. Il y avait l'écran en plein milieu de la scène, et en bas de scène, il y avait l'orchestre.
Voilà, c'était pour la petite partie histoire, cinéma et musique. Sam, t'es musicien, on l'a dit, de quoi tu joues ?
Je joue un petit peu de guitare, et puis j'écoute beaucoup de musique surtout. J'ai très peu d'heures perdues en ce moment, donc par contre je me permets d'écouter.
Et alors quand on parle musique et cinéma, est-ce que voilà, t'as une première impression sur la musique dans le cinéma ? C'est un truc qui est important pour toi quand tu vas voir un film qui est une bande originale, ou est-ce que voilà, pour toi ça reste quelque chose d'accessoire et le principal c'est l'action, c'est la baston, c'est les personnages qui se tapent dessus ?
Non, aujourd'hui je ne vois pas de cinéma sans musique. Effectivement, dans le cinéma, il y a énormément de bruitage qui nous plonge dans les films. Il suffit d'entendre une porte qui grince, une portière de voiture, ce genre de choses. Mais au niveau des bandes originales, ben on se rappelle tous, c'est un peu cliché, mais pour le film Armageddon, la musique d'Aerosmith, je pense que si on enlève ce passage... On en oublie une bonne partie du film. En tout cas, on n'est pas projeté de la même façon.
Moi, perso, quand je prends mon bain, je ne peux pas rentrer dans la baignoire sans faire tanin, 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 tanin.
Dola et tout le monde sous les sièges, mort de peur.
Voilà. Vous avez reconnu, bien sûr, hein, cette incroyable musique. Les Dents de la Mer, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises.
Les Dents de la Mer de John Williams.
Je vais vous chauffer un peu comme ça sur le blind test, histoire qu'on soit bien... bien péchu, voilà, qu'on soit en forme. Donc voilà, pour toi, effectivement, cette musique, c'est quelque chose qui plonge encore plus l'ambiance. On a déjà eu l'occasion de parler avec des sonorisateurs de cinéma et qui nous, effectivement, pouvaient nous expliquer la difficulté parfois, mais l'intérêt de récupérer le bruit de la pièce. Évidemment, le bruit d'une cuisine n'est pas le même bruit qu'un salon, n'est pas le même bruit qu'une forêt, que près d'un ruisseau. Les bruitages qui sont rajoutés après, t'en parlais, de la porte qui grince, etc. Et c'est vrai que la musique, elle vient encore en plus. Est-ce que pour toi, la musique, c'est bien quand on l'oublie? Ou au contraire, quand on la sent présente? Parce qu'il y a un peu les deux écoles dans le cinéma.
Oui, après, effectivement, quand elle est présente, on se rend bien compte, on a bien cette sensation. Une musique très slow, très, très douce, nous fait penser au romantisme, du violon, du piano, un petit peu de guitare classique. Peut nous faire penser également à la rupture, en contrepartie. Alors qu'une musique plus violente, plus péchue, surtout plus rythmique, va nous faire penser à quelque chose de beaucoup plus festif. Moi, effectivement, je pense pas que la solution après une personnelle, après une rupture, une déception, une mauvaise nouvelle, une musique classique, on se renferme. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent dans le cinéma de la même façon, quoi.
T'as jamais rêvé que, comme au cinéma, t'embrasses une fille comme ça que tu viens de rencontrer et d'un coup, t'as cette musique romantique qui s'élance comme ça partout dans la pièce? C'est-à-dire que quand t'es petit, quand t'es ado, etc., tu vois des films un peu comme ça et puis quand tu le fais pour de vrai, d'un coup, tu te dis c'est le moment là, on commence à se rapprocher, elle est où la musique? Où sont les violons? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
C'est là que le cinéma intervient, on nous vend un petit peu du rêve finalement.
Et c'est pareil, quand il t'arrive un truc pas cool, genre tu viens de péter ta voiture, il y a un truc qui t'énerve, voilà, t'es bien vénère, il pleut pas forcément. Alors que dans les films, oui, s'il y a un décès, s'il y a un truc qui va pas, forcément il pleut. Dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas malheureusement. Enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, pour la météo, ce serait un peu galère s'il pleuvrait tout le temps.
Tout à fait. En revanche, dans le cinéma, cette musique amplifie vraiment cette sensation d'énervement, de joie.
Alors, je voudrais revenir avant qu'on se fasse un premier, deux, trois petites chansons quand même en blind test pour tester. Moi, je sais que c'est un de tes trucs favoris, Marjorie, justement, c'est ces films où une musique, tu le disais tout à l'heure, incarne un peu un personnage. Tu as des exemples comme ça en tête de musique de films qui vraiment ont de l'importance. C'est-à-dire que c'est pas juste, comme le disait Sam, et tout à fait justement, l'accompagnement de l'action. C'est-à-dire que la musique se fait discrète, mais va renforcer finalement l'émotion que le réalisateur va faire ressentir au spectateur. Mais où là, la musique a une importance toute différente.
Alors, il y a deux compositeurs qui sont vraiment très forts pour faire ça, pour donner une espèce de personnalité à leur musique. C'est John Williams qui fait ça très bien avec Star Wars. Si vous regardez un Star Wars, vous vous rendrez compte qu'un personnage ne peut pas apparaître sans son thème musical. Il a son thème musical. Dans ces cas-là, la musique n'est pas forcément son accompagnement, et c'est plutôt une de ses caractéristiques au personnage. Donc du coup, cette musique, elle raconte quelque chose, parce qu'elle est en lien avec sa psychologie, avec sa personnalité. Et du coup, même s'il apparaît pas tout de suite à l'écran, le personnage, rien qu'en entendant la musique, on sait qu'il va arriver, on sait que potentiellement il peut être de mauvaise humeur ou plutôt joyeux. Donc on est préparé. Et sinon, l'autre grand spécialiste, c'est évidemment Sergio Leone et Ennio Morricone.
Alors oui, c'est une émission geek, mais on va parler de western quand même. Vous inquiétez pas, c'est pas grave,
voilà.
On
le fait. C'est en dédicace à Ludo, qui ne peut pas être présent aujourd'hui et qui m'a supplié de parler d'Ennio Morricone. Alors j'en parle deux minutes. Lui, il est juste capable, dans un film où il n'y a pas de dialogue, de faire comme s'il y avait des dialogues avec la musique.
Alors, j'avoue que je ne suis pas, moi, pour le coup, un grand fan de western. Et puis, vous le savez, si vous nous écoutez, que je suis un petit peu rétif pour ce qui est du cinéma ancien, c'est-à-dire avant les années 2000. Donc, c'est vous dire si je suis vraiment...
tu es une calamité ambulante.
Une calamité en termes de... pour les cinéphiles, en tout cas. Mais tu m'as fait regarder à corps et à cri « Il est une fois dans l'Ouest », c'est ça ?
Il était
une fois dans l'Ouest, pardon, ce film absolument abominable où tu as une scène au début qui dure 10 minutes, où ils font juste regarder, il y a une mouche qui se promène sur une moustache. Enfin, voilà. Mais j'ai apprécié le film, sincèrement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il suffisait que j'entende l'harmonie pour savoir que notre ami, comment il s'appelle,
l'harmonica.
L'harmonica, justement.
Il s'appelle Harmonica, voilà. Il ne donne pas son nom.
Je vais chercher le nom de l'acteur. Allez apparaître à l'écran. Et effectivement, j'avais vraiment en tête ce que tu dis là à l'instant. C'est-à-dire que la musique voilà, dans ces scènes de western où ils se font face l'un à l'autre, où ils échangent pas un mot, juste des regards, où il y a un cadrage qui change, eh bien la musique donne une réponse de l'un et de l'autre à un dialogue qu'on n'entend pas. Voilà, pour faire la poésie, hein, réponse d'un dialogue qu'on n'entend pas. Mais écoutez, petit blind test, hein, parce que du coup, on va peut-être pas rester quand même sur quelque chose de poétique, ce serait trop dommage, c'est pas notre genre. Je passe une première...
La piste 1, si tu veux.
Ah oui, alors c'est-à-dire qu'il y en a une, deux, trois, elle sera dans l'ordre forcément.
Ouais, maniaque du contrôle à fond.
Très bien, piste 1. Donc là, Sam, c'est au premier qui répond, au premier qui trouve.
Alors j'aimerais au moins un film.
Ah, vas-y, quand tu veux, Sam.
Vas-y.
Je dirais pirate.
Non. Mais c'est le même compositeur.
C'est Avenger. Avenger.
Non. Par contre, honte à toi si tu ne le trouves pas.
Ah mais j'ai qu'un bout de casque sur les oreilles, c'est chaud. Attends, je mets un casque. Mais c'est Batman, ça.
Lequel?
C'est le 2 de Nolan.
Oui.
C'est Batman The Dark Knight.
Nous avons un gagnant.
Wouh! Premier sur Batman. Bon, j'ai mis.
Est-ce que quelqu'un peut me donner le compositeur?
Eh bien, le réalisateur, c'est hyper facile, c'est Christopher Nolan, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et le réalisateur, Sam, j'ai donné le réalisateur, je te laisse donner Sam le compositeur que tu connais, bien évidemment.
C'est ça, tout à fait.
C'est le même que Pirates des Caraïbes?
C'est le même que Pirates des Caraïbes,
alors,
exactement.
On est mauvais, on devrait le trouver, mais on ne l'a pas. Vas-y.
Alors, c'est Hans Zimmer.
Oui, bah si. Alors, ça,
et
si.
Et si vous connaissez si. Quelques films, il en a composé d'autres, notamment les Pirates des Caraïbes, tous les Pirates des Caraïbes. Gladiator, c'est aussi son œuvre. Iron Man, Amazing Spider-Man, Man of Steel, Sherlock Holmes, c'est que lui. Tous les films de Nolan, forcément, donc Inception, Interstellar, c'est aussi lui. Et il a aussi fait des jeux vidéo.
Est-ce que c'est pas lui aussi qui a fait le dernier Batman versus Superman?
Oui.
Alors parce que justement, il y avait une polémique à ce sujet-là. Enfin, une polémique, non pas une polémique, mais lui-même s'exprimait en disant qu'il avait composé tellement de musique de super-héros, qu'il avait tellement composé sur Batman, qu'il avait eu beaucoup de mal à composer la musique, qui est pourtant pas mal, hein, du film Batman versus Superman, parce que voilà, il a l'impression de repartir sur un truc, de devoir sortir quelque chose de nouveau sur Batman, alors qu'il avait déjà préparé avec Nolan trois épisodes avant et que c'était compliqué pour lui.
Alors,
mais il est tellement plein de talent.
Petite
que...
explication. Les compositeurs de films, parce que j'ai fait des recherches pour ce blind test, hein,
ils sont
assez incroyables. Notre ami Hans Zimmer, il a composé pas loin de 153 bandes originales de films entre 1982 et cette année.
Donc 153 films différents.
Ça, voilà,
sachant
exactement.
Sachant que dans chaque film, il y a plusieurs pistes, en fait.
Il en réalise de 5 à 10 bandes originales par an.
D'accord.
Voilà.
C'est comme si le gars, il faisait 10 albums par an, presque.
C'est presque ça. Donc, il a commencé avec la composition d'un Disney très célèbre. Vous le trouverez jamais.
Blanche-Neige?
Non. Ouais, le Roi Lion, en 94, c'est lui.
C'est lui, Hakuna Matata?
C'est lui, non, c'est pas lui qui a composé les paroles de la chanson, mais c'est lui qui fait toute la bande originale du reste du film. Et il aime plutôt les films catastrophes ou tragiques. Et du coup, on s'en rend compte parce que ses compositions sont très souvent un peu grandioses, un peu sombres, et elles peuvent facilement devenir très faibles et discrètes selon l'action à l'écran, en fait. Elle n'est jamais omniprésente, elle s'adapte vraiment à ce qui se passe à l'écran.
Bon, revanche, Sam.
Revanche.
On tente le 2?
Ouais.
La 2.
3, 2, c'est parti. Ça, c'est hyper facile. C'est l'Odyssée de l'espace. Non, pas 2001, l'Odyssée de l'espace, non?
Non.
Non, c'est pas ça?
Non, non.
C'est l'autre.
C'est l'autre?
L'autre.
Oui, mais l'autre quoi?
Ça.
Ah
si.
Non.
Non, c'est pas Star Wars.
Mais c'est le même compositeur.
Mmh.
Parce que ouais,
ça
on
se
sent
reconnaît.
Indiana Jones.
Non.
C'est le même compositeur aussi, tu me diras.
Oui.
Ah mais si. Tu l'as, je le vois sur le bout de ta langue, Sam. C'est pas E.T. C'est l'autre.
C'est l'autre.
C'est l'autre. La Stargate.
Oh là 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 là.
Allez Sam, fais un effort.
Des geeks comme vous.
Mais si, c'est Retour vers le futur.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, 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 pas du
alors,
tout.
Alors, j'ai une assistante à côté de moi en régie. Tu peux me dire ce que c'est, t'as trouvé ou pas, toi? Elle a pas trouvé non plus, vas-y, donne-nous la réponse.
C'est Superman.
Mais oui, mais c'est carrément Superman, c'est complètement Superman. Mais je t'ai dit, je ne regarde pas les films avant les années 2000. Et ça, c'est le Superman, mais vieux, non?
Oui, bah oui, c'est le premier ouais. Superman.
Où il a un collant qui lui colle à la peau, un slip rouge, une mèche avec du gel, et où il fait le tour de la tête le tour de la Terre 15 000 fois pour revenir en arrière.
C'est ça, c'est ouais, le non, premier c'est Superman. Et non, la bande originale a été composée par John Williams.
John Williams, et qui a composé tous les autres trucs que j'ai cités, où j'ai vachement bien reconnu, voilà. Mais c'était pas ça.
Alors en fait, on peut dire que Steven Spielberg et George Lucas sont les meilleurs amis du monde. Et que c'est un duo de choc. En fait, c'est un trio, messieurs, dames. Et oui, parce que John Williams, c'est aussi leur grand pote. Il fait tous leurs films. Tous, sans exception. À part une fois où il a voulu prendre sa retraite, mais les deux compères l'ont rappelé dardard. Ils ne pouvaient pas faire un film sans lui.
Alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que, bon, je l'avais dit, hein, j'ai un niveau en blind test qui est à petit peu près... voilà, vous l'avez très bien vu d'ailleurs, mon niveau en blind test. Mais par contre, toutes les musiques auxquelles j'ai pensé, et dont je me suis trompé parce que je ne pensais pas du tout à Superman, et ben effectivement, c'était bien le bon bonhomme. C'est-à-dire qu'on, c'est pareil, il y a une vraie patte, je ne sais pas ce que tu en penses, Sam, il y a une vraie patte dans la composition pour les deux qu'on vient de passer là. On arrivait à voir à peu près le... En tout cas, la couleur de la musique et le type de film qui vont avec. Qu'est-ce que t'en penses ?
Tout à fait. Ils ont vraiment une touche personnelle qui ressort à chaque fois, en fait.
Alors ça, c'est l'usage prédominant des cuivres et de l'orchestre symphonique, en fait. Très peu de compositeurs utilisent un orchestre complet symphonique pour faire leur musique. Ils utilisent quelques musiciens par-ci par-là, ce dont ils ont besoin. John Williams, lui, il aime bien faire les choses en grand et surtout les faire bien. Et il n'a jamais pu se résoudre à la retraite, du coup, hein, à cause des demandes incessantes de Spielberg et les besoins de Star Wars, puisqu'il a fait tous les Star Wars également. Et en fait, c'est très reconnaissable aussi parce que les thèmes sont simples et ils correspondent parfaitement à la psychologie des personnages et à ce qui est relaté à l'écran. On ne peut pas oublier une chanson de John Williams. De toute façon, on la reconnaît à peu près partout ailleurs dans ses compositions.
Ou au moins, on reconnaît que c'est John Williams.
C'est ça.
Bon, on va faire notre petite revanche, parce que pour l'instant, il y a 1-0 pour moi. La deuxième, c'est match nul, on était aussi mauvais l'un que l'autre. Donc je propose qu'on balance dès maintenant la piste 3. On va essayer de laisser passer quand même un peu moins de 45 secondes avant de trouver.
Piste 3, normalement, vous devez trouver.
C'est parti. Mais je connais que ça. Mais je penserai à Batman, moi,
ouais.
En premier.
C'est pas Batman ?
Du tout.
Bon, avant de préparer l'émission, Marjorie m'avait dit qu'on fait un blind test facile.
Harry ?
Mais c'est très facile.
C'est pas Harry
non,
Potter ?
Non, mais c'est le même compositeur.
On dirait un Disney.
Ils sont pénibles d'avoir cette touche personnelle.
C'est le même compositeur qu'Harry Potter ?
C'est même le même compositeur que Superman, messieurs, dames.
C'est encore John Williams ?
Eh oui.
Non.
Les animaux ?
Non, c'est pas les animaux fantastiques. Un peu plus tragique, messieurs. Un peu plus sombre. Un film qui n'est pas unique.
Moi, j'ai l'impression que c'est un truc de Tim Burton. Je sais pas si vous l'avez chez vous, mais alors nous, on est nuls, hein.
Je pouvais pas mettre le thème principal du film.
Parce
vous auriez mis 5 secondes.
C'est pas Star Wars, du tout.
Si, c'est Star Wars. Wars, c'est Star Wars, bravo, nous avons un gagnant. Par défaut, mais nous avons un gagnant.
Ah bah si.
Battle of the Heroes.
L'ai. Là, je l'ai.
Avec ses voix derrière, ses cœurs.
Et là, on est sur le troisième épisode, la revanche des
Sith. La revanche des Sith.
Ils sont en train de se battre dans la lave.
Voilà.
Mais
Obi-Wan Kenobi contre Anakin Skywalker.
C'est le morceau qui est en train de passer en ce moment à l'antenne.
C'est ça.
Et que je vous pourris complètement en parlant dessus. Bon, bah, ça fait 2-0. Faut que tu te reprennes, Sam.
Ouais, c'est
des
parti.
Bonnes idées, tu mets bien sur la voie, mais après, tu mets pas la balle au fond des.
Je t'aide déjà.
Allez, on va directement sur le suivant. Facile, enfin, si, le Seigneur des Anneaux. Alors là, je. Voilà. Ça par contre, je suis désolé, Sam, là-dessus. C'est un thème que j'ai tellement entendu.
Ah bon. Alors dis-moi, c'est lequel
thème, c'est la communauté de l'anneau.
Oui, tout à fait.
C'est au tout début, quand Gandalf arrive et qu'il raconte. Enfin, même avant qu'il arrive.
C'est la comté.
C'est quand il raconte la comté.
C'est le thème de la comté.
C'est vraiment. Alors pour moi, c'est pour ça que c'était ultra facile. C'était un peu de la triche de le mettre, Marjorie, t'abuses.
Bah, vous m'aviez demandé quelque chose de simple.
C'est quasiment une des seules bandes originales de films avec celle de Watchmen que j'écoute en fait au-delà du film. Puis après, le film, je l'ai vu un peu 2 milliards de fois. Donc forcément...
Savez-vous qui a composé cette petite merveille?
J'ai les notes sous les yeux, donc je vais pouvoir te trouver assez facilement. Tu ne l'as pas noté sur les fiches qu'on a.
Non.
C'est dommage. Howard Shore.
Oui, c'est Howard Shore.
Allez.
Alors, Howard Shore...
Il est très bizarrement coiffé, il a les cheveux bouclés, il est super long.
Il est très bizarre, mais alors par contre, il fait que des petits chefs-d'œuvre comme ça. Il bosse notamment avec Scorsese, Peter Jackson et David Fincher.
Ça va. Voilà. Ça va.
Pour ceux qui connaissent, il a fait La Mouche, en 1986, de David Cronenberg. Le Silence des Agneaux, profondément oppressant comme musique. Je ne vous le conseille pas pour vous endormir le soir. Sinon, il a fait tous les Seigneurs des Anneaux et tous les Hobbits. Et il fait aussi tous les films de Scorsese.
On est quand même là sur trois grands, grands, grands compositeurs de musique de film, c'est assez fort.
Très, très grand.
Bon, tu te rattrapes, Sam ? Pardon, et en fait, tu
petite dernière info sur Howard Shore, j'y tenais, excusez-moi. Hein. Sa musique, en fait, on peut considérer qu'elle accompagne l'action un peu comme un adulte pourrait tenir la main d'un enfant pour l'aider à traverser, en fait. La musique porte le film et l'emmène vraiment là où l'histoire doit aller.
Alors, quelque chose de particulier sur sa musique, en tout cas, moi, ce que j'en ai pensé dans Le Seigneur des Anneaux, c'est justement différemment à ce que tu as dit par rapport à Ennio Morricone ou à John Williams sur les musiques qui incarnent en fait le thème des personnages, ou alors des musiques qui sont très peu présentes et qui sont juste là pour accompagner l'action. Là, c'est ni l'action ni le personnage, j'ai l'impression que ça accompagne, mais c'est le décor. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un thème en fonction de la comté, il y a un thème en fonction de l'Isengard, il y a un thème en fonction du Mordor, il y a un thème en fonction du Rohan. Et en fait, c'est une musique qui intervient dans le décor et qui vient sublimer le décor. Et pour le coup, on est dans des films où les décors sont plutôt superbes et le lien est très très intéressant, je trouve.
Tout à fait.
Allez, il te reste 3 pistes, Sam, pour reprendre
l'égalité. S'il vous plaît. Mais pas trop... pas beaucoup. Et oui, c'est un film.
Moi, je dirais Ghost Rider.
Du tout.
Ça, c'est plutôt ton style, Sam. Hein.
Ouais. Je suis beaucoup dessin animé, en fait.
J'aimerais tellement vous aider, mais...
ACDC ?
C'est ACDC, exact.
Et donc c'est Iron Man ?
Et donc c'est Iron Man.
Et ouais, exact. Parce que Iron Man, il est ultra fan. Quand il bricole son armure dans l'atelier, quand il bricole sa voiture, il l'utilise... Enfin, il y a souvent ce thème-là qui passe quand il est un peu peinard.
Iron Man, c'est un peu une blague, parce que ce n'est pas un compositeur. Hein. ACDC ne compose pas naturellement des chansons pour les films. Néanmoins... Il y a certains groupes de musique, et je tenais à le dire aussi, qui font d'un film une bande originale à eux tout seuls. On peut aussi le voir quand vous regardez Highlander, par exemple. Le film Highlander avec Christophe Lambert ne serait pas le même sans la musique de Queen. Eh bien, je trouve que Iron Man sans ACDC, c'est un peu comme un milkshake vanille sans vanille.
Ah, carrément. T'avais pas d'autres exemples, justement, de groupes comme ça ou de bandes qui t'ont marqué, toi, Sam, qui... Voilà, que ce soit des groupes ou effectivement des films et des éléments qui t'ont vraiment marqué au niveau de la musique et qui où t'associes tout de suite quand tu l'entends la musique au film.
Si, tout à fait. Mission Impossible, la chanson que tout le monde connaît, pour le 2 qui a été reprise par Limp Bizkit. Donc.
T'as vu Aerosmith, Limp Bizkit, ACDC, j'essaie de, tu vois,
Ouais, tu me lances un peu. Ouais,
malgré mon manque de connaissances musicales, j'essaie de trouver ton petit côté rocker comme ça.
C'est ça. C'est...
T'en avais d'autres ou pas ?
Ouais, je sais pas si vous connaissez le film Requiem for a Dream, donc Kent Mansell, qui a fait toute la bande originale dans un autre film qui est magnifique. Du Slayer dans Gremlins. Voilà, c'est vrai que je suis un petit peu plus basé rock.
Un peu plus rock.
Mais énormément de groupes de musique qui ont repris des.
Bon, il nous reste 2 pistes. On va voir si y a du rock encore dans les 2 pistes qui restent. Allez, c'est parti pour la suivante. Ah, on est bien rock là. Là, on est bien bien rock.
N'ose pas. Il fallait bien changer un peu de style et c'est un grand compositeur également.
Amélie Poulain ?
Non, c'est pas Amélie Poulain, ça.
Non, mais c'est le même compositeur qu'Amélie Poulain.
Ouais, alors, c'est un film français, non ?
Non, mais peut-être que le compositeur est français, lui. Ah.
Allez, vas-y.
Ah non, j'ai
c'est
pas.
C'est geek en tout cas.
C'est geek. C'est geek. Récent ou c'est pas récent?
Ah, c'est récent. 2010 et 2011.
C'est pas une dystopie ou un truc comme ça?
Du
un
tout.
Truc à la Divergente ou le Labyrinthe ou
du
un
tout.
De genre là.
Un peu plus classique. Un peu plus connu.
T'as des idées, Sam?
Non.
Alors, oriente-nous, Marjorie, c'est quoi? C'est du fantastique, c'est de la SF, c'est de la fantasy, c'est des super-héros?
C'est pas un super-héros. Je dirais plutôt que c'est...
N'hésitez pas à jouer chez vous.
C'est
aussi,
la personne qui a accompagné des millions et des millions d'enfants à travers l'adolescence.
J'avais une blague, mais il faut pas que je la sorte.
Vaut mieux pas vu ton style de blague. Peut-être qu'il est un peu sorcier, ce héros.
Alors, c'est pas Harry Potter?
Et si, c'est Harry Potter. Mais
ça, c'est dans Harry Potter?
Eh oui.
Ah, pardon. Pardon.
Harry Potter, c'est être subtil aussi.
Ah ouais, mais alors, dans, c'est quel passage qu'on entend?
C'est la scène de Harry et Ginny dans Harry Potter et les reliques de la mort, le premier tome.
La scène où elle lui annonce qu'elle est enceinte, finalement. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Nous ne vous spoilerons pas,
messieurs dames. On va pas vous spoiler, ça n'arrive pas. Ok, alors dernière, t'as une dernière chance. Sam,
et ce compositeur-là,
il faut sauver l'honneur.
Parce qu'il faut quand même que
oui,
je vous le présente
on parle
un
du
petit
compositeur.
Peu.
C'est il nous reste à peu près 30 secondes, donc là on peut passer une piste pas du compositeur en même temps, c'est pas un souci.
Eh bien, il s'appelle Alexandre Desplat, il a fait Twilight 2, Benjamin Button, Le Voile des Illusions, il est très connu, il est en plein dans la montée de sa carrière.
Il a l'air extrêmement doué, il n'a pas fait que des bons choix. Twilight, il aurait pu s'en passer.
Sa musique est souvent très mélancolique, elle peut devenir espiègle, mais elle est rarement prédominante, elle est juste là pour accompagner et pour se faire oublier. Et il a un grand kiff, c'est le piano.
Eh bien, il a bien réussi parce que pour le coup, cette musique-là, avec ça, on l'avait complètement oublié.
Non, moi, que ce soit trop facile.
J'ai pensé à Twilight, mais j'ai pas osé. Quoi.
Ben, je comprends, moi non plus, j'aurais pas osé perso. Allez, la dernière. Mais...
Batman?
Oui.
Ben oui, carrément Batman. Tu nous as mis trois Batman, deux Batman.
Oui, mais deux Batman totalement différents avec deux compositeurs très différents.
C'est celui de Tim Burton, ça, non?
Oui.
Enfin, le premier, là, avec. Oui. Comment il s'appelle, le pas très grand?
Michael Keaton.
Michael Keaton, voilà. Ah, c'est pareil, ce film, qu'est-ce que
en
j'ai vu
en 1989.
Aussi. Tu l'as
beaucoup vu, toi, Batman? Oui, je l'ai pas mal vu. Ouais.
Mais cette musique-là, elle est très très importante, elle est très très belle. J'ai l'impression qu'il y a certains passages de Watchmen où on suit le hibou, alors on vous racontera hein, ce film plus tard, on retrouve un peu ce genre de thème-là, et qu'à mon avis, c'est une vraie référence à ce premier Batman de Tim Burton.
Voulez-vous savoir qui a réalisé cette petite merveille?
Non, parce qu'il reste plus assez de temps pour l'émission, alors ce sera... Non, si, bien sûr, vas-y.
C'est Danny Elfman, et c'est lui qui fait toutes les musiques des Tim Burton. Vous savez, ces trucs un peu étranges, où c'est à la fois glauque, morbide, ouais. et très décalé, complètement barré même, je dirais. Et bah, le compositeur de musique, je vous le donne en mille, il est aussi barré que Tim Burton. Ils sont tous les deux meilleurs potes. Ils se sont engueulés pendant 3 ans, mais en fait, pendant ces 3 ans-là, Tim Burton n'a pas fait de film.
Tim Burton, c'est pareil, sa musique, elle est extrêmement importante, avec des sonorités qui sont souvent étranges et qui correspondent bien finalement au personnage. Alors je ne sais pas s'il prend des instruments de musique particuliers ou si alors il arrive
alors,
à donner Elfman, quelques sonorités avec...
Danny Elfman, veux-tu dire?
Oui, oui, non, mais pour les films
de Tim Burton.
Voilà, pardon, j'avais pas le...
Oui, il n'est pas très classique.
En plus, Danny Elfman, je l'ai sous les yeux sur les fiches que tu
nous
as faites.
Il n'est pas très classique dans ses choix. Il mélange des sons graves et très aigus. Et même si ça reste harmonieux et assez plaisant à écouter, ça peut aussi traduire des sentiments de profond malaise ou d'interrogation. Enfin, on peut se sentir très mal à l'aise en écoutant du Danny Elfman.
Je dirais qu'elle est incongrue, sa musique, tout comme les films de Tim Burton.
Elle est aussi barrée
que les films. Il y a des exubérances parfois qui arrivent et qui s'accordent bien d'ailleurs avec le reste, mais qui, ça marche très bien.
Il a été nominé une fois aux Oscars, il n'a jamais gagné. Il fait trop de films d'auteur pour les Oscars, ce n'est pas suffisamment rassembleur comme thème.
Pour avoir un moment.
C'est ça.
Ok, et ben merci en tout cas pour toutes ces découvertes de couple finalement, de réalisateurs et de compositeurs. Merci Sam d'avoir bien voulu jouer avec moi au Blind Test. J'ai l'impression que j'ai gagné. Tu as quand même marqué un point.
Ouais,
qui est un beau point parce que je l'avais pas du tout. Enfin, j'avais pas. Tu étais vachement. 2 points. Eva qui est à côté de moi me dit 2 points. Donc voilà, on est pas mal. Mais n'empêche qu'il faudra qu'on fasse un blind test que tous les deux avec des chansons genre ultra ultra faciles. Sinon.
Ouais, c'est ça.
Mais
les
c'était
Tortues
très
Ninja,
facile.
Voilà, les Tortues Ninja, je fais du Zodiac, des trucs qu'on maîtrise ou c'est notre
domaine. Des vrais trucs.
Merci en tout cas beaucoup Marjorie d'avoir préparé cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se retente l'expérience, Sam, la semaine prochaine. côté jeux vidéo, parce que bon, cinéma, on a un peu fail, mais peut-être qu'au niveau jeux vidéo, on peut arriver à se rattraper. Je suis sûr qu'avec des grandes musiques à la Tetris, Mario, Prince of Persia, on va arriver à trouver des trucs qui fonctionnent. On vous dit la semaine prochaine en tout cas. Bye bye Sam, bye bye Marjorie.
Salut à tous.
À plus.